sur Fréquence Mistral. C'est l'heure de la chronique historique du GLAP. Dernière de l'année, alors profitez. Le GLAP, c'est la chouette association qui a pour vocation de mettre en valeur l'art et le patrimoine des quartiers entre le théâtre du Gymnase et le parc Longchamp. Et certains membres viennent depuis le 15 octobre nous faire découvrir les trésors cachés de ces endroits qu'ils et elles connaissent bien. En ce 17 décembre, c'est Marion Wazana qui vient nous parler des cartes postales. Bonjour Marion.
Bonjour Colline. Eh bien oui, c'est bientôt Noël, on ne vous apprend rien. Vous vous souvenez qu'avant cette période, on envoyait de jolies cartes postales. Tu t'en souviens Colline? Bon, toi tu es plus jeune que moi, mais il faut savoir qu'à ma génération, où il n'y avait pas de portable, et puis celle d'avant, où elle n'avait pas de téléphone, on envoyait une carte pour Noël et on avait jusqu'au 30 janvier pour envoyer les vœux. On les collectionnait aussi. Cette coutume, en fait, est très ancienne. Il semblerait que déjà au Xe siècle, les Chinois s'envoyaient des cartes de vœux. Cette pratique se retrouve en France au milieu du XVe siècle, puis plus tard, sous Louis XIII, on s'adresse par la poste impériale des cartes gravées sur lesquelles on rédige un compliment ou un message d'amitié. Cette pratique sera interdite par la Révolution française. Mais l'Europe est déjà conquise par ce moyen simple de communication. Attention, il faut bien distinguer la carte postale illustrée de la carte postale photographique inventée par un Marseillais. Effectivement, ce sont les Autrichiens et les Allemands qui vont créer en 1876 ce petit carton recto-verso avec l'adresse d'un côté et les illustrations de l'autre. Elle sera un moyen de communication pendant la guerre de 1870, puis un témoin de la vie quotidienne, comme la bicyclette ou certains événements politiques. La carte postale illustrée va servir diverses causes, celles du droit, de la justice, de l'humanité, mais elle peut aussi questionner le monde sur son iniquité, comme lors du procès Dreyfus. Elle va jouer un rôle important de documentation graphique de tous les événements et mœurs du moment. Même au niveau littéraire, les écrivains vont s'amuser à enfermer dans une seule image le condensé de leur écrit. Mais là encore, nous parlons de dessins, de gravures, pas de photos. Eh bien oui, c'est un Marseillais d'origine italienne, encore un, Dominique Piazza, qui va avoir l'idée géniale de la première carte postale imprimée et illustrée avec des photos. Fils d'Italien venant de Sardaigne, il est né en 1860. Simple comptable dans l'entreprise Fleury située vers les docks, il fait du négoce en légumes et raisins secs. Il va reprendre les rênes de cette entreprise, ce qui va lui permettre de faire fortune et d'être introduit dans le milieu bourgeois marseillais. C'est par amitié pour un ami de la communale, Antoine Billot, parti faire fortune en Argentine et qui a le mal du pays, que Piazza va relier deux inventions du moment, la photographie et la phototypie. C'est quoi la phototypie ? Ben oui, c'est un mot bien étrange pour désigner un procédé de reproduction mécanique d'images par report d'un cliché sur une plaque de verre recouverte d'une couche de gélatine bichromatée. Et avec la lumière, ça produit une image positive. Procédé qui va rendre la carte postale plus légère. Avant, on collait une image sur un carton épais, c'était lourd, encombrant et cher en frais de transport. Avec ce procédé, Piazza va réussir à réduire les photos et à en rassembler 3 ou 4, tout en laissant un espace libre pour les mots de correspondance. Les photos ne sont donc plus collées, mais imprimées. Ce procédé va garder les images intactes, car avant, bien les dessins, les gravures s'estompaient ou s'effaçaient avec le temps. C'est donc le 4 août 1891 que naît la première carte postale photographique française imprimée en phototypie. Évidemment, Dominique Piazza va proposer son invention à tous les Marseillais et créer sa propre société d'édition. Le succès sera immédiat, mais la désillusion également. Évidemment naïf, il ne pense pas à déposer ni marque ni brevet et des éditeurs sans scrupules vont lui voler son procédé. Il va donc abandonner la production de cartes postales quelques mois après son invention. Il continuera cependant de manière épisodique jusque vers les années 20. Mais peu de temps avant sa mort, dans un interview accordé au journal Le Cri du Peuple, le 13 septembre 1941, lui va mourir en décembre, il dira « Mon édition fut enlevée en un jour ou deux. Tout Marseille en parla. Et comme les villes voisines voulaient leur carte postale, j'ai mis mes économies dans une affaire. Ce fut un beau feu de paille. Je n'ai pas pu résister aux trusts, aux firmes, à l'argent, aux puissants de ce monde. Ils eurent tôt fait de m'enlever mon enfant. En gardera-t-il toute sa vie une grande amertume ? Oui et non, car c'est un être créatif et ambitieux. Grand amoureux de la nature provençale et de la richesse du patrimoine naturel qui ceinture Marseille, il va devenir président des excursionnistes marseillais, fondateur du Théâtre Sylvain en faisant l'acquisition d'un terrain au Vallon d'Auriol et en fervent catholique, président de l'association Les Amis de l'Éveil pour lesquels il va organiser sorties et rencontres culturelles. Voilà Colline, encore un génial mécène oublié. Il va mourir le 13 décembre 1941 à 81 ans. Au 97 boulevard Longchamp, une plaque nous rappelle qu'il y a vécu, d'où notre intérêt pour notre association, le GLAP du gymnase à Longchamp, Art et Patrimoine, de le remettre sur le devant de la scène, ce créateur d'un objet que nous utilisons encore aujourd'hui. Et comme tous les illustres Marseillais, il repose au cimetière Saint-Pierre.
Merci Marion. On va peut-être choisir une belle carte postale comme carte de vœux pour écrire nos souhaits et à nos correspondants, correspondantes, pour raconter nos états d'âme.